Billy the Kid, Figouz et compagnie, c'est parti. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Billy the Kid, Figouz et compagnie. Aujourd'hui, on continue notre exploration de War Machine Horde et on fait débuter Syrah avec Nevar et Ashnut. Bonjour à vous.
Bonjour.
Salut, salut.
Alors, pour rappel quand même un peu de ce qu'on va parler, si c'est votre premier, si c'est votre troisième, c'est un peu redondant, donc on va aller vite. On va commencer par faire un petit aspect fluff quand même. Donc Nevar va faire le percaster avec des oreilles pointues. Ensuite, on parlera un peu force-faiblesse de manière générale de la faction. Puis, Nevar va nous présenter quelques listes pour débuter Syrah à Brawl Machine sans être un peu ridicule sur la table. Et puis, on va un peu parler de comment EPA 75, mais avec les CID qui sont en ce moment et tout ça, on met un peu quelques pincettes. Et surtout, Nevar aura quand même une mention à parler entre le 25 et le 75 points. Alors, à savoir, donc Nevar est un peu notre expert Syrah sur le podcast. Ashnut est le noble. Et bon, moi, je poserai quand même quelques questions puisque c'était ma faction en MK2. Et quand même, de temps en temps, j'ai des envies d'y retourner, quoi. Bon, Nevar, je t'en prie, parle-nous un peu du châtiment de Syrah en français.
Très bien. Alors, pour commencer, le châtiment de Syrah, c'est une faction donc de War Machine qui se trouve sur le continent d'Imoren, des terres d'acier comme les autres, comme Signar. C'est pas peuplé, c'est pas une faction d'humains comme vous avez pu le voir précédemment, c'est une faction d'elfes qui sont une race, l'une des races les plus anciennes de l'univers avec les nains, les roules. Et c'est donc une race très très ancienne qui a plusieurs milliers d'années d'existence avant l'arrivée des humains. Et au départ, c'était une race qui vivait en harmonie avec ses huit dieux primordiaux. Et ces dieux étaient réputés pour être bien plus puissants et bienveillants envers leur peuple que les autres dieux, Ménoth, Kador, Moro, etc. Et c'est donc les elfes, en compagnie de leurs dieux, ont réussi à développer une civilisation à la pointe de la technologie et de la magie. Et donc ils ont pu avoir une civilisation extrêmement avancée. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été un peu lassés de parler à leurs dieux seulement par l'intermédiaire de leurs prêtres. Et ils voulaient rentrer en contact avec eux de manière physique. Donc ils ont entamé un grand projet de construction d'une espèce de pont qui permettrait de relier le monde des dieux, qui s'appelle le Veld, avec le monde des humains, des elfes, le monde tangible. Et ça leur a pris des milliers, des centaines d'années de travaux, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient un empire qui prenait l'entièreté du continent, même plus que les terres d'acier. Et ils ont construit donc cette espèce de pont, ils ont fini par y arriver. Et ils ont réussi à le faire fonctionner, ça a marché. Leurs dieux sont apparus devant eux, ont traversé le passage et sont arrivés sur les terres d'acier. Sauf qu'au moment de leur passage, il s'est passé un truc incroyable qui n'était pas prévu. Il y a eu un cataclysme, une énorme explosion. Le pont s'est brisé et il a complètement balayé la zone. C'est ça qui a créé l'immense abysse que l'on voit sur la carte des terres d'acier à l'ouest, à l'est, pardon, vers les déserts Scorn. On appelle l'abîme, je crois, ou l'abysse, je ne sais plus. Et d'ailleurs, toute la région qui était très verdoyante s'est transformée en un désert qui est devenu le territoire des Scorn plus tard. Ça a tué une énorme portion de la population. Il y en a seulement quelques-uns, beaucoup, qui ont survécu grâce à l'aide de leurs dieux qui étaient présents, qui ont pu les aider à survivre. Mais du coup, ça a complètement bouleversé leur civilisation. Et ils ont été obligés de se replier vers des terres plus agréables, plus accessibles qu'un désert, sachant qu'ils faisaient en plus harcelés par des espèces de monstres du désert, avec des mammouths, ce genre de choses, qui deviendront plus tard les Scorn, justement. Et en fait, ils se sont réfugiés dans la forêt qui deviendra le royaume Dios, le royaume actuel de Syrah, qui se trouve à l'est de Sigdar, à l'est du Lael, en fait, comme on en a déjà parlé avec Titi. Et du coup, ils ont prospéré à partir de là, grâce à leur dieu qui était tangiblement, physiquement avec eux. Ils ont construit plein de cités. Chaque cité était faite pour, comment dire, pour prier un dieu particulier, etc. Ils ont continué tant bien que mal à essayer de se reconstruire et ça a duré plusieurs siècles. Enfin, ils se sont rendus compte petit à petit que leur dieu s'affaiblissait. Ils ont compris qu'en fait, c'est parce que leur dieu n'était plus lié à leur monde d'origine, le Veld, et qui petit à petit, ils perdaient leur pouvoir, et plus ils utilisaient leur pouvoir pour aider leur peuple, et plus ils s'affaiblissaient. À un moment donné, les dieux, unanimement, ont décidé de quitter les elfes pour trouver un chemin pour retourner vers chez eux, parce que sinon ils allaient mourir. Et ça a été vécu comme un grand déchirement par les elfes, parce que bah, ils perdaient leur dieu, qu'ils les quittaient. Et ça a été très compliqué pour eux pendant quelques centaines d'années, jusqu'à un moment donné, où il y a un événement très important dans l'histoire du châtiment qui s'appelle la déchirure. Tous les prêtres, quasiment unanimement, à un moment donné, sont devenus fous et ont perdu le lien qu'ils avaient avec leur dieu, quasiment tous. Il y a eu énormément de suicides, de dépression, etc. Parce qu'en fait, les elfes ont compris que ça signifiait probablement que soit leur dieu était mort dans leur conquête, enfin, pour retrouver leur place, soit ils avaient disparu. C'est pour ça qu'on les appelle les disparus, les dieux elfes. Et ça a été vécu comme une tragédie pour le peuple. Et ils ont cherché des réponses. La réponse a été que parmi les enquêtes qu'ils ont menées, ils se sont rendus compte que cette déchirure, cette perte du lien avec leur dieu, ou la mort de leur dieu, ça coïncidait avec le début de l'utilisation de la magie et des Warjack par le Signar. Et par d'ailleurs les autres peuples à côté. Et donc, c'est à ce moment-là qu'a émergé la rétribution de Syrah. En français, c'est le châtiment de Syrah. C'était une secte qui avait pour mission d'éliminer tout ce qui avait tué leur dieu ou tout ce qui affaiblissait leur dieu. Et donc, leur but était tout simplement d'assassiner et de détruire tout ce qui était usage de la magie dans le monde, qui n'était pas une magie elfe. Ça, c'est l'origine du châtiment de Syrah. Et du coup, au début, ce n'était qu'une secte, mais petit à petit, des événements se sont produits. Il y a eu deux dieux elfes qui sont revenus de leur voyage, Syrah, d'où le nom, qui est la déesse du printemps et du renouveau et de la guérison. Probablement pour ça qu'elle n'est pas morte d'ailleurs, et qui les déesses elfes est revenue dans leur capitale, et elle est tombée dans un coma. Et du coup, elle est protégée jalousement par les elfes, qui voient en elle la dernière déesse qu'ils conçoivent. C'est d'ailleurs, petit aparté, c'est à ce moment-là que des elfes sont partis vers le nord et qui sont transformés dans les Nis, qui deviendront les elfes du froid, là, et qui se feront plus tard corrompre par un dragon. C'est ça qui donnera les Everblight. Donc les Everblight sont en fait des elfes au départ qui se sont fait corrompre. Il y a eu tout un tas de manœuvres politiques à ce moment-là pour essayer que le châtiment gagne de l'influence, notamment mené par le Dawn Lord Viros et l'alchimiste et magicien Lord Gorshade, de son prénom chez Krix. Il y a eu des batailles internes, je ne vais pas perdre trop de temps. Ce qui s'est passé, c'est que au final, le châtiment a gagné en puissance, notamment quand il a découvert que le grand dieu de l'hiver, qui s'appelle Nissor, avait été fait prisonnier par Cador, et grâce à une action conjointe de toutes les forces du châtiment, ils ont réussi à récupérer leur dieu Nissor, le dieu du froid. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des échauffourées avec Lord Gearshield, qui est devenu Gorshade, qui est mort et qui est devenu une liche chez Krix. Et du coup, ça a donné énormément de puissance au châtiment, qui maintenant, actuellement dans le fleuve, est une faction majoritaire qui est. En fait, c'est quasiment la seule force politique et militaire du pays des elfes. Et ça ne fait que s'augmenter, puisqu'ils se sont bien rendus compte qu'ils avaient des résultats et qu'en effet, quand on tuait des arcanistes et des mages humains, leur dieu semblait reprendre un peu de force, ou en tout cas perdre de la force moins rapidement. Voilà.
D'accord, donc tuant des humains, quoi.
Tuons tout ce qui fait de la magie, globalement.
Voilà.
Mais les humains surtout.
Ok. Bon, bah, donc maintenant, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses en termes de jeu?
Alors, en termes de jeu, leur force, c'est que ça va être une armée, une faction extrêmement technologique, avec énormément de capacités annexes, de petites règles rigolotes, de règles de déplacement. C'est une faction très agile, très mobile, avec beaucoup de capacités d'aller dans des angles morts ou d'ignorer des règles. Et c'est surtout une faction globalement qui, sans poser de problème, a des solutions pour tout. Ça veut dire qu'elle est très couteau suisse et c'est très facile de gérer des problèmes que l'adversaire peut nous poser, ce qui est beaucoup moins le cas chez d'autres factions. De plus, c'est une faction d'élite avec des unités qui. Il n'y aura pas beaucoup de troupailles avec des stats bof. Ce sera beaucoup d'unités très fortes en elles-mêmes, intrinsèquement, qui deviennent encore plus simples, plus fortes avec leur caster. Ça va par contre être une faction, comme on a parlé en off, qui va être très centrée sur l'infanterie et peu centré sur les jacks. C'est surtout une faction qui est très réputée pour ses tirs. C'est vraiment probablement avec Signar l'armée qui tire le plus, et avec des tirs à effet comme Signar. Ce qui est rigolo, c'est que c'est l'unique faction, je crois, qui a des jacks qui systématiquement peuvent et taper au corps à corps et tirer. Tous nos jacks, sauf exception, ont des armes intégrées de tir. Ce qui fait que ça augmente un peu leur coût en points, mais ça leur donne encore une fois des possibilités d'action étendues par rapport à des jacks, par exemple, Cador, qui sont très spécialisés dans ce qu'ils font. Donc, leur force, ça va être ça, c'est-à-dire qu'ils vont être très spécialisés, très forts dans certaines choses, mais en même temps capables de faire tout correctement et de taper très loin, très fort. Les défauts, ça va être que ça va être une faction très fragile. Vraiment parmi les plus fragiles du jeu. C'est généralement que si tu tapes sur un elfe, il va mourir. Mais avec une défense relativement haute, ce qui permet de compenser ça souvent. Ça va être les autres faiblesses, ça va être que tout coûte cher, parce que tout est d'élite, ou tout est a des capacités étendues par rapport à d'autres, ce qui fait que les points se retrouvent là. Donc ça fait que c'est difficile d'avoir beaucoup de monde sur la table de qualité. Et quoi d'autre? C'est comme ça fait tout, ça fait rien très bien. Et y a donc, même les unités qui sont un peu spécialisées, on trouve mieux ailleurs. Ça veut dire que on a toujours un peu cette sensation de mi-figue mi-raisin à base de je vais réussir à faire des choses, mais je vais jamais réussir à les faire parfaitement ou mieux que d'autres. Mais par contre, je vais pouvoir faire beaucoup plus un éventail de possibilités beaucoup plus grand. Voilà, globalement, si à suivre, je vais rajouter quelque chose.
Polyvalent,
Polyvalent,
enfin
ouais.
polyvalent, mais comment dire, mais de par l'élitisme de chaque troupe, c'est compliqué, quoi.
C'est ça, c'est ça. C'est plus une armée qui va se baser sur les mouvements pour éviter l'assaut ou prendre first strike puis reculer, taper à travers les murs, à travers les forêts, se baser beaucoup sur leurs règles de déplacement et de tir pour attendrir un peu la viande qui arrivera et derrière, ou alors frapper un grand coup en espérant de tuer l'ennemi. Et si on n'a pas réussi à tuer l'ennemi lors de notre attaque, et ben généralement ça se passe mal au retour.
Ensuite.
Ensuite, c'est ça. Donc ça demande aussi une stratégie assez poussée. Et je pense que ce n'est pas une faction qui est facile à prendre en main pour un débutant.
Et tant que je me trompe, oui, c'est eux. Enfin, les Jacks aussi, ils ont une spéciale. Enfin, ils ont un caractère spécial par rapport à ceux des autres factions. Ils ont des
Oui.
boucliers.
Alors pas tous. En
Pas
fait,
tous, d'accord.
chez Syrah, tu as deux types de jacks. On appelle ça les jacks vailleurs, qui sont des jacks lents, lourds, qui tapent fort en général, mais qui n'ont pas trop de règles annexes. Et il y a les jacks Chahil, qui sont ceux-là qui sont plus légers, mais qui ont un bouclier. C'est un bouclier énergétique qui va en fait tanker les dégâts à la place de leur armure. Et ce qui est très utile, c'est qu'en fait, c'est des points de vie qui sont mis de côté. Et quand on tape sur le bouclier, eh bien, on ne peut pas casser de système, puisque c'est le bouclier qui prévaut sur les dégâts. Ce qui fait que c'est très très fort pour justement se faire avoiner un peu à distance, mais sans perdre de capacité offensive. Et l'intérêt, c'est que si on a du focus à perdre, on peut dépenser un point de focus pour regagner 5 points de bouclier. C'est comme un heal de 5 points qu'on peut faire chaque tour, ce qui leur donne un petit côté régénération qui est sympa.
Et
c'est
le...
pas ouais. souvent utilisé, mais c'est pratique quand il y en a besoin.
Ouais, et ça, je me rappelle, ça... justement.
Les 5 points, ça vient du CID, hein, c'est ça? Parce qu'avant, c'était
non.
un D3, non?
Oui, ça vient du CID, tout à fait. Avant, c'était un D3, tout à fait, pour un focus. Donc, c'est une capacité qui n'était jamais utilisée. Maintenant, c'est 5 points d'un coup pour un focus. Donc, c'est beaucoup mieux.
Ah, ça, je me rappelle, à cause de ce bouclier, j'ai pas réussi à buter ton Jack et...
Bah,
tu t'es
c'est vrai.
Réparé.
C'est vraiment agréable
on a
parce
aussi
que ça
des
te
jacks qui se... C'est ça, on a des jacks qui se réparent tout seuls ou qui réparent leur bouclier tout seul et ça c'est assez rigolo.
donne... Ouais, sauf quand on l'affronte.
Oui, c'est sûr.
Bon,
voilà.
Alors parle-nous plus en détail des thèmes force, quoi. Je crois qu'en plus, de ce que je vois par rapport à d'autres, les thèmes sont vraiment, enfin on dirait vraiment des parties ou des castes de l'armée de Sierra un peu quand même.
Tout à fait, c'est complètement ça. C'est des thèmes force basés beaucoup sur les maisons elfes, hein, qui sont un peu comme les maisons dans Game of Thrones, hein, qui représentent un peu des orientations particulières de la liste. Donc, on a la thème force Legion of Dawn, pour commencer, qui va être la thème force des Dawnguard. Les Dawnguard, ce sont l'infanterie d'élite qui est chargée de protéger Sierra. Et en fait, ce sont les elfes en armure lourde. Donc c'est une thème force qui apporte un bonus intéressant à base de ça permet au Jack de la faction d'avoir tacticien sur tout ce qui est Dawnguard, ce qui permet de mettre ces Jacks en plein milieu de ces unités et les rendre beaucoup plus difficiles à toucher, à atteindre en fait tout simplement. Et par contre, eux peuvent derrière passer à travers les unités et frapper. Donc ça, c'est un bonus qui est intéressant sans être très fort, mais qui est rigolo si on a des jacks qui ont des bonus particuliers. Par exemple, Discordia qui met un bonus d'armure. Par exemple, avec certains casters, on peut avoir des Arcane Vortex, ce genre de choses, avec Gear Shield, qui peuvent être intéressants. Et le deuxième bonus, c'est de gagner flank sur les jacks qui sont Jack Marshall. Alors ça, c'est un bonus qui n'est jamais utilisé, parce que le Jack Marshall est une règle qui n'est jamais utilisée. Mais ceux qui ont envie de s'amuser avec cette règle-là, ça permet d'avoir des Jacks légers à 8 points qui tapent aussi fort qu'un colosse. Donc c'est très intéressant et c'est rigolo à jouer. Donc dans cette Theme Force, on va jouer surtout donc des Dawnguard, c'est-à-dire des Sentinelles, qui sont notre unité d'élite par excellence, très résistants, qui tapent comme des Brutas, hein, ça tape Pau 12 Weapon Master... ça menace pas très loin, mais ça a la vengeance. Donc ça menace à 13 avec la vengeance. C'est quand même correct. On va jouer des tridents, qui sont notre Battle Engine de favori. Je pourrais en parler plus tard. Ça fait partie des forces de la faction. Et on peut jouer des Destors, qui sont moins joués, qui sont une cavalerie lourde, qui peuvent tirer, qu'ont des lances, qui permettent de tirer aussi. Ce qui est encore une fois cette idée de polyvalence et on fait tout correctement. Donc ça va être la Theme Force Dawnguard, Legion of Dawn. Ensuite on a la Theme Force Shadows of the Retribution. Là ça va être la Theme Force des Magenters. Les Magenters, ce sont dans le fluff les assassins envoyés par le châtiment pour assassiner justement les mages, d'où leur nom. Et en fait ça va être la faction la Theme Force des unités qui vont être stealth, c'est-à-dire invisibles, qui vont être pathfinder, donc qui vont être... En fait, elles vont avoir blessed, magique, en fait, elles vont avoir tous les bonus possibles et imaginables, mais une très bonne défense, une défense 14 en général, qui va pas taper très fort, mais qui va avoir plein de règles de déplacement ou de bonus qu'elles peuvent se mettre, qui permettent de rien d'assassiner très facilement les casters et les solos. Le bonus de Theme Force leur donne takedown, ce qui permet d'ignorer le tough et de remove from play la figurine que l'on tue avec une attaque de mêlée. Ce qui permet encore plus efficacement de gérer tout ce qui est un peu résistant, tout ce qui est pénible. Ça permet de gérer tout ce qui est récursion, tout ce qui est tough, tout ce qui est de l'infanterie pas trop résistante. Ça tire très bien. Avec le CID, ils ont gagné encore plus de mouvements et encore plus de capacités rigolotes à utiliser. Et donc ça, c'est de la Theme Force des assassins globalement. qui n'était pas très forte avant, mais qui maintenant, on en reparlera quand le site sera sorti dans 2 semaines, mais devient vraiment tout à fait viable et très amusante à jouer. Le deuxième bonus de Thème Fort, c'est le reroll sur le jet de TOS au début de partie, ce qui permet de fiabiliser le scénario, puisque ça permet de choisir son terrain ou de jouer en premier, ce qui est toujours utile, et ça permet de se positionner correctement en fonction de l'adversaire, ce qui est très thématique, je trouve. Je pourrais en revenir, mais il y a plein de choses à faire dans ce thème-là. Ensuite, notre thème, je vais en parler très rapidement, ça va être le thème Ajak, le thème Forge. Forge, je sais plus comment il s'appelle, Forge
Forge
of quelque chose.
of Retribution, non, justement.
Forge of
Non,
War.
Forge of War, voilà.
Forge of War.
Qui est notre thème Ajak. Donc c'est le bonus de ce thème Forge, c'est que tous nos Jacks gagnent Shield. Non, pas Shield Wall, c'est.
Shield Guard.
Shieldguard, merci. Garde Shieldguard. Et c'est tout. Et l'autre intérêt du thème, c'est
Wouhou!
on peut jouer des unités d'arcaniste qui permettent, une unité permet de donner 3 focus à un jack, ce qui permet d'avoir des jacks vraiment full focus tout le temps et de jouer beaucoup de jacks full focus. Le problème de cette Thème Force, c'est que c'est très 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 limité dans les unités qu'on peut jouer. On peut jouer seulement des Battle Mage, qui sont les unités de magiciens elfes qui ont vraiment pas grand chose pour eux, qui tapent pas fort. Ils ont une règle spéciale sur leur tir qui permet de drag, de tirer les figurines vers nous, mais c'est très facilement contrable. Il y a plein de figurines qui ne peuvent pas être push, donc c'est annulé. Ils explosent dès qu'on les regarde et ils sont pas donnés non plus. Donc ça nous force à jouer que des jacks et le problème c'est qu'on n'a pas de caster à jack vraiment très bien, à part Viros 2. Ce qui fait que c'est vraiment la Thème Force qui a été oubliée par les joueurs Syrah en MK3 et qui n'est pas en passe d'être jouable compétitivement prochainement, puisqu'elle n'a pas été touchée dernièrement lors du seed. Et enfin, probablement l'un de nos meilleurs thèmes. C'est le thème fourre-tout, on l'appelle c'est le thème Defender of Chaos, c'est le thème des House Guards, c'est-à-dire les défenseurs de la patrie des elfes. Et c'est le thème où on va pouvoir mettre un peu n'importe quoi. Il y a vraiment énormément d'unités différentes. On peut mettre la moitié de la faction dans ce thème sans problème. Et là, ça va être le thème où on va pouvoir faire de tout. On va pouvoir faire des unités de corps à corps avec les halbardiers qui vont pouvoir menacer très loin et taper fort. On va pouvoir faire principalement des listes de tirs avec plein de petits jacks qui tirent ou des battle engines ou des unités d'électromanciers, des snipers. On peut vraiment faire un micmac, un gloubi-boulga de choses dans cette liste. C'est un peu c'était le thème poubelle au début de la MK3. C'est devenu un thème très bien avec les nouveaux ajouts. Et le bonus de ce thème fort, c'est très fort, je trouve. C'est pour ça qu'il est très joué. C'est que déjà, on peut placer un mur en début de partie dans les 20 pas. Comme ce que je faisais avant mes notes avec un de ces thèmes. Ce qui permet de protéger nos casters qui sont généralement assez fragiles. Et de leur donner encore plus de bonus de défense et encore plus difficile à les atteindre, ce qui est très bien pour plein de nos casters. Et le deuxième bonus, c'est que ça donne reposition à la plupart des unités qui sont dedans, reposition 3, et à la plupart des solos qui sont dedans. Ce qui fait que c'est très pour un thème qui va principalement jouer des unités de tir, pouvoir se repositionner, ça permet vraiment de menacer encore plus loin en étant protégé. Ça permet de s'avancer mais de reculer derrière, donc en fait de laisser une énorme distance de manœuvre à l'ennemi pour pouvoir venir nous chercher. Ce qui vraiment fiabilise encore plus les listes à tir. Donc c'est vraiment la liste fourre-tout, on va pouvoir mettre un peu tout, on va pouvoir s'amuser. Et c'est une des listes que je recommande si on a envie de commencer Syrah, parce qu'on peut vraiment mettre un peu tout, de tester des choses et de faire une liste une gunline très facilement dans cette Thème Force. Voilà.
Ok. Avant de commencer de présenter les listes Brawl Mage que tu nous proposes, j'ai une petite question quand même. En tant que débutant, est-ce que la Battle Box est un bon démarrage ou pas du tout?
Alors, si je me souviens bien, dans la Battle Box, on a Elina, un Griffon, une Chimère, et c'est tout.
Une
On a
Manticore.
peut-être
Il y
une
a une
Manticore.
Manticore. Ouais, je crois qu'il
Ouais.
est quasiment le même que celui de MK2, sauf que le caster changeait, quoi.
Oui, c'était peut-être Kaelis en MK2.
C'est ça.
Alors, est-ce que ça vaut le coup? Bonne question. Les jacks sont des jacks qui sont bien. Enfin, ça, la moitié des jacks sont bien. La Manticore, c'est devenu, avec le CID, un jack vraiment tout à fait correct, qui n'est pas très cher, il coûte 14 points, et qui peut mettre un mur d'interdiction, qui peut tirer, qui, au corps à corps, ne rigole pas. Il monte pot 17 sans aucun problème de base. Et il peut monter pot 19 avec un arcaniste. Donc, qui tire fiablement, enfin, qui frappe fiablement, qui tire pas fiablement, mais qui tire, c'est déjà ça. Donc, la Manticore est un très bon jack. La Chimère, c'est un très bon jack également. C'est notre Arcnode. Ça permet de relayer les sorts et c'est très utile pour bon nombre de casters Syrah, un peu comme chez Signar ou chez Trix. Donc la Chimère, il en faut une. Par contre, le Griffon, il n'est pas joué. En fait, c'est un jack qui va être bien dans deux conditions. Soit on le joue avec Virus 2 en spam, en forge, soit on le joue en Brawl Machine ou avec un Jack Marshall pour faire une espèce de missile guidé qui va taper comme une grosse brutasse et qui va menacer très loin mais qui va mourir après. Donc le Griffon, c'est un jack qui est plus occasionnel et peu utilisé. Et Elina, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment un caster pour débuter, c'est très bien parce que ça permet de se prendre en main la faction, mais qui n'est pas un caster que l'on jouera plus tard à haut niveau. Donc pour un débutant, si c'est un débutant qui n'a jamais joué à War Machine, ça peut être intéressant parce que c'est des jacks qui sont pas difficiles à prendre en main, qui font un peu tout, qui sont rigolos à jouer et qui permettent de jouer la Battle Box correctement. Mais c'est pas du tout des figurines qui vont être intéressantes pour des joueurs vétérans ou qui ont déjà joué d'autres factions de War Machine. Voilà. Donc pour un débutant, pourquoi pas, sachant qu'il faudra investir de toute manière dans plein d'autres trucs si on veut être efficace. Mais pourquoi pas. Par contre, pour un joueur qui connaît le jeu, non. Je pense pas.
D'accord. Eh ben allons-y. Commençons à voir un peu les listes Brawl Machine dont tu nous as parlé. Alors, donc il y en aura 4, mais il y en aura 2 du même thème.
Oui, parce que pas de liste Forge en Brawl Machine, ne fais pas ça. Parce que je l'ai déjà dit, c'est un thème qui est très restrictif. Les unités qui sont dedans sont vraiment pas bien. Et les jacks, c'est un thème à jack, sauf qu'en Brawl Machine, on peut pas jouer beaucoup de jacks, vu que nos jacks coûtent cher. Et en plus, ils sont pas résistants, nos jacks. Ce qui fait que non. Pas intéressant, on va se faire surclasser sur tous les points, donc ne jouez pas ça.
Ouais, j'ai testé, j'ai été vite balayé avec en Brawl Machine, je le ferai plus.
C'est dommage, moi j'aurais bien aimé, quoi, mais bon. Alors, commençons avec Legion of Dawn et Garrett 2 en tant que caster.
Alors, c'est très bien de commencer par lui parce que Garrett 2, c'est probablement l'un des meilleurs casters, voire le meilleur caster de chez Syrah. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement polyvalent et qu'il fait tout extrêmement bien et qu'il menace partout. Garrett 2, donc je vais parler de lui en premier. C'est un caster à 6 focus, c'est peut-être son seul défaut, qui a une brouette de règles spéciales et de sorts qui permet de. Il a Mortality, ce qui permet de rajouter des buffs d'armure, des buffs d'armure et de défense, et ça enlève aussi les soins et le toff. Il a Road to War, ce qui permet de donner un bonus de mouvement de 3 pas à tous ses jacks dans sa Theme Force. Il a Mash Sight, ce qui permet d'ignorer les lignes de vue, globalement. Et il a un Feat qui permet à toutes les figurines dans sa portée de contrôle de tirer ou de taper sur tout ce qui rentrerait dans sa zone de contrôle. Ce qui est un Feat à la fois défensif et à la fois offensif. Qui est très 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 fort pour gérer le scénario ou faire de l'attrition. De plus, lui-même, c'est un sniper de renom qui peut faire des pots 14 armor piercing boosté ou tirer plusieurs fois, ou se met stealth. Il a Black Penny, il a Witchmark. Donc il a tout ce caster. Et donc pourquoi je le joue dans cette liste-là, c'est que je le joue avec deux Jack, Imperatus et Moros, pour deux raisons différentes. Déjà parce que avec Road to War, ce sont des Jacks qui menacent respectivement à 14 avec deux sidesteps ou à 16 avec Paris Acrobatics. Ce qui permet de menacer au caster kill vraiment très facilement. Moros, il peut paralyser n'importe quoi à 16 pas de lui. Ce qui entraîne la mort instantanée de la personne qui se fera paralyser parce que derrière il va passer défense 5 et ça va mal se passer. Et Imperatus, lui, c'est notre Jack le plus lourd de la faction qui monte pot 19 avec des arcanistes, mais bon, avec Mortality encore plus 2. Qui tape comme une brutasse. À deux sidesteps, et surtout, le truc qui est intéressant, c'est qu'il se régénère tout seul, et qu'une fois qu'on l'a tué, il se régénère entièrement son bouclier et un point de chaque système, ce qui fait que virtuellement, sauf si on lui met un anti-soin, il a 46 PV. Quelque chose comme ça. Ce qui fait que c'est un jack lourd qui est déjà avec des bonnes stats, il est 13-18, ce qui fait qu'il est très 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 dur à tomber en Brawl Machine, parce que soit tu mets toute ton armée dessus, et derrière bah, tu te fais avoiner par ce qui reste, soit tu le tues pas, et derrière c'est lui qui t'avoine. Donc ça pose des vrais soucis, et en plus il menace à 14 avec Garrett, ce qui est quand même une distance très respectable. Avec ça, je mets un arcaniste pour booster les jacks qui leur donnaient du focus ou le plus de patates. Je mets un ghost sniper. D'ailleurs, je crois que je ne le mets plus, celui-là. Si, je l'ai peut-être. Bon, je sais plus. Je mets un ghost sniper parce que c'est très bien pour tenir un flag. Ça permet de faire 3 dégâts automatiques et d'ignorer le toff. Donc ça peut finir n'importe quoi. Ça a une distance de menace de 19. Donc c'est vraiment difficile de pas s'en préoccuper. Je mets Scythe, qui est notre solo pété du moment chez Syra, qui a Tree Walker, donc elle ignore les forêts, et elle a jusqu'à 4 tirs pour 10 Weapon Master, rat 8. Ce qui fait que là aussi, sous Mortality, elle peut tuer des jacks. Des jacks légers, mais des jacks quand même. Ensuite, je mets unité mine de sentinelle avec les officiers. Et un soulless escort. Les sentinelles, je rappelle, c'est des unités qui sont un peu chères, mais qui sont Po 12 Weapon Master, Mat 7, avec Vengeance, avec Shield Wall, et leur... non, c'est pas Shield Wall, c'est Wall of Steel, je crois que ça se dit. C'est quand ils sont base to base, ils ont plus d'armure. Et le mini-fit leur donne encore plus d'armure et ne peuvent pas être cadés ou stationary. Et le soulless, c'est un solo qui est hyper important chez Syrah. C'est un attachement qu'on met sur une unité et qui va réduire la portée des sorts ennemis de 5 pas. Ce qui fait que virtuellement, c'est une unité qui est extrêmement dure à toucher avec des sorts. Et d'autant plus avec Garrett qui peut leur mettre occultation, ce qui leur donne le stealth, donc ils ne peuvent pas être touchés avec des sorts ou des tirs. Ce qui fait que c'est une unité qui est très dure à aller chercher sauf au cac et qui tape comme des bœufs hein, sous Mortality. Ça tue n'importe quoi. C'est encore plus rigolo sous feed de Garrett, puisque du coup, évidemment, tout ce qui va venir vouloir les chercher au corps à corps, ils vont se prendre une petite avoine Mat 7, Po 12 ou Weapon Master dans la tronche, ce qui peut calmer beaucoup de monde.
Donc, cette liste.
Non, voilà, pour moi, c'est la liste la plus forte que j'ai vue actuellement en Brawl Machine. Je la recommande à tous les joueurs Syrah. Elle est très forte et parce qu'elle pose énormément de soucis au tir, au corps à corps, à l'assassinat, à l'attrition, mais aussi au scénario. En fait, elle gère tout et elle fait tout bien.
D'accord.
Et du coup, bah, si ça veut, vous pouvez vous amuser à l'augmenter en 75 points. Ça peut être rigolo, sans être fort, mais ça peut être rigolo.
D'accord. Alors, une autre liste Legion of Dawn qui a été jouée par un autre joueur du tournoi Brawl Mash là, qu'on a fait en janvier 2021.
Non, celle-là, c'est la mienne.
Non, celle-là, ça tienne
La deuxième liste Legion of Dawn, c'est la mienne.
Ah, c'est la tienne
Celle de Slex, c'est en Shadows.
Ah, ok, excusez-moi. Pardon. Donc une deuxième liste Legion of Dawn avec Gorshed, oui. Cette fois-ci.
Alors voilà, Gorshed qui est très bien, pourquoi? Parce qu'il donne Arcane Vortex à ses jacks, ce qui protège d'autant plus les unités et les jacks contre les sorts. Il est très bien parce qu'il pose des clouds de froid, ce qui virtuellement ça permet d'empêcher vos figurines de se faire charger, sauf si on ignore les clouds, et tout ce qui chargerait quand même dans les clouds à moins 2 pour toucher, ce qui augmente d'autant plus la défense des elfes. Il a Revive, ce qui permet de faire revenir des figurines. Et il a un Blast qui ignore le stealth, enfin qui enlève le stealth et qui baisse la défense. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a encore un truc bien. Ah oui, et il met un buff d'armure de plus 3, plus tough sur une unité. Ce qui fait qu'avec lui, des sentinelles passent armure 22 tough pendant le mini-fit, ou 20 tough globalement tout le temps. Ce qui fait que c'est très compliqué à tomber. Enfin, c'est très compliqué. C'est pas si facile que ça à tomber, notamment au tir. Et je rajoute à ça un artificier qui va donner un bonus de plus 2 de défense contre le tir à une unité et immuniser aux dégâts de blast. Ce qui fait que ça fait des sentinelles qui sont def 14 contre le tir, pas de blast dommage, armure 20, et virtuellement immunisé au sort. Et avec ça, je joue encore une fois Imperatus parce qu'il est toujours aussi bien. Dans ce format, et une chimère pour pouvoir balancer des blasts de loin. Le feat de Gorshed est intéressant, c'est que quand tu tues une figurine au corps à corps, déjà tu donnes l'âme à Gorshed et tu deviens stationary si tu n'es pas immunisé au froid. Ce qui fait que la plupart des jacks qui taperaient sur une figurine vont se stationary, donc ne vont plus pouvoir jouer, donc en fait ils vont tuer une figurine et c'est tout. Et c'est valable aussi pour toutes les figurines qui ont des règles comme Berserk ou de la reposition, ou en fait toutes les figurines qui chercheraient à s'échapper ou à faire plus d'attaques qu'une fois, ça va les embêter. Et en plus de ça, Gorshed va récupérer les âmes, ce qui fait qu'il va pouvoir lancer autant plus de sorts ou revive les figurines qui sont mortes. Donc c'est un bon feat de tempo qui est très sympa.
Et donc là, ça, c'est une liste.
Pardon, oui, vas-y, je t'écoute.
Comme tu as sorti par rapport à la première liste, je vois que c'est une max de sentinelle. Ouais. Ça te gêne pas au niveau de la table, parce que quand tu as une seule unité qui est aussi puissante, tu n'as pas des gars qui traînent à gauche à droite, qui t'empêchent de marquer ou des choses comme ça.
Ah bah, vraiment. C'était un peu peut-être un des soucis de la liste, s'il y en avait une, c'est pour ça que je suis passé sur Garrett 2. C'est que c'était au scénario, c'était pas forcément si facile que ça d'avoir l'avantage. C'est pas tellement que la max, elle est volontaire parce qu'en fait, tu veux avoir des figurines qui meurent. Pour déclencher la vengeance, pour déclencher le feat de Gorshed.
T'en sacrifies plus en fait.
Voilà, t'as plus envie d'en sacrifier. Sachant que je rappelle que la bannière des Dawnguard, elle ne tape pas. Donc, et elle est moyennement utile. Ce qui fait que tu peux très facilement l'envoyer tout devant pour contester. Et soit tu la tues pas, mais elle conteste. Et soit tu la tues et tu triggers tous les bonus. Donc c'est très bien. Pareil pour le Souless. Qui permet de faire ça si jamais il n'y a pas de sort offensif en face violent. Donc moi j'ai essayé de le faire en max et je pense qu'il faut la jouer en max parce qu'en mine tu gagnes peut-être 7 points, mais dans cette Theme Force je vois pas trop ce que tu pourrais rajouter pour cette à part des solos peut-être, mais il n'y a pas des masses de solos forts, peut-être Scythe et la passer en mine, mais je suis pas sûr que ça soit si bien que ça. Je pense que c'est mieux d'être en max parce que ça fait quand même 11 mecs qui tabassent. Qui peuvent, trois mecs tombent un jack hein, et qui font peur et qui prennent la table et qui sont très durs à sortir. Mais c'est une liste qui a des soucis parce que si tu ignores les clouds et que tu ignores la haute armure, par exemple avec les Reeves de Ouroboros ou ce genre de choses, c'est moins bien. C'est ça, c'est plus polarisé dans des match-ups où ça peut être compliqué. C'est pour ça que je suis passé sur Garrett 2. Mais c'est une liste qui est viable, qui fonctionne contre pas mal de choses et qui est très forte.
Et si je peux ouvrir une parenthèse là par rapport au Dawnguard, t'es déjà tombé là sur les virtus, là, les nouveaux légions avec la corrosion et tout?
Alors, je suis tombé sur de la légion avec la Theme Force qui corrode, mais je suis pas tombé sur les virtus actuellement. Ça me fait moyennement peur. Parce que, en général, se taper la corrosion pendant ton tour, c'est pas tellement important parce que les figurines qui sont corrodées, elles vont se faire tuer par les figurines adverses pendant le tour de l'adversaire en général. Donc ça m'inquiète pas trop. C'est un semi-problème, en vrai. Mais oui, c'est sûr que c'est pas forcément l'unité la plus forte contre ce type de liste. Avec Garrett 2, c'est vachement mieux parce que avec Mortality, les vertus, ils volent.
D'accord. Et ben, on garde Gorshed, mais cette fois-ci en Shadows of Retribution.
Tout à fait. Alors ça, c'est la liste d'un confrère qui s'appelle Slek, un très bon joueur Sierra aussi, qui y connaît au moins autant que moi. Lui, il aime bien jouer Gorshed en Shadows. Alors, je sais pourquoi. C'est parce que Gorshed, ce qui est intéressant en Shadow, c'est qu'il peut placer des clouds. Les clouds, je le dis, ça rajoute, enfin ça fait un malus de défense, un malus à la mat pour les figurines qui sont dedans. Ce qui fait que, puisque toutes les figurines en Shadow ont une défense très élevée, hein, 14 au minimum, ça fait passer virtuellement la liste qui serait protégée par des clouds à une infanterie qui serait tough avec def 16 et qui ignore la plupart des règles. Et en plus, qui est très difficile à tuer au tir parce qu'ils sont stealth. Donc, ça fait une infanterie très résistante, très difficile à sortir des zones et à tuer, qui derrière peut faire des trucs. Gorshed, il est très bien parce qu'il va mettre un malus à l'armure, et ça, les Mage Hunters, ils adorent ça parce qu'ils tapent pas si fort que ça. Il va jouer ça avec une sirène, parce que la sirène, elle a un truc qui fait que si elle a un focus sur elle, elle ignore un jet de dégâts sur elle-même, et en plus, elle peut, quand elle tire, elle peut prendre le contrôle de la figurine qu'elle a tuée. Donc ça fait des blagues. La Manticore pour protéger encore plus ses unités avec le mur d'interdiction, et en plus ça devient vraiment, comme je l'ai dit, un jack polyvalent très fort. Et la Chimère toujours avec Gorshed pour pouvoir lancer les blasts de loin ou les malus d'armure de loin. Parce que Gorshed c'est quand même un caster qui peut se faire caster kill sans trop de problèmes. Avec ça, un arcaniste toujours pour booster les jacks. L'assassin, qui est une figurine très rigolote, qui menace à 14, et il a une arme chaîne, décapitation, blessed. Ce qui fait que c'est un très 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 bon solo pour tuer les solos, puisque tous les dégâts qu'il va faire, ils seront doublés, en fait. Un Magenter assassin, ça tue n'importe quel solo en charge, globalement.
Et la figue, elle est classe.
Ouais, elle est classe, mais c'est un peu...
Ah, mais
un
moi,
peu,
c'est ce qui m'avait fait choisir cette faction
par,
MK2.
Mais par contre, elle a qu'une attaque.
Donc voilà, c'est un peu pile ou face, quand même. Hein. Il y a des fois...
Ah, oui.
Il y a des fois, t'as des grosses attentes, et puis quand tu jettes les dés, bah voilà, c'est fait.
Donc, non, ça, je m'en suis rendu compte par la suite. Mais la figue était quand même classe.
Quand il loupe la touche, bah t'es très triste. Mais par contre, quand il loupe pas, moi j'ai déjà caster kill un caster full vie avec un assassin. C'était avec, non, même pas haut, c'était avec Isiria. J'avais le feed d'Isiria, donc il donne un des fantômes. Et j'avais enlevé le focus avec Eris 1, et derrière j'ai chargé avec ça. Tu menaces très loin, et puis j'ai touché. Et derrière, je lui ai fait 24 points de vie. Avec l'assassin, je m'en souviens très bien, j'ai one shot. C'était un troll en plus, il avait pas tof parce que c'était en shadows, donc j'ignorais ça. Donc il était très triste. Donc l'assassin, c'est vraiment la figurine qui est pile ou face, mais quand ça réussit très bien, très 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 bien. Et en brawl machine, c'est très rigolo. Notamment en combo avec Gorshed qui peut baisser la défense avec ses blasts, ça peut vraiment être intéressant. Il y a Narn, du coup, qui est une figurine qui là aussi a été touchée avec Parle Cid, qui est une figurine qui est rigolote parce qu'elle a pari acrobatics, ce qui fait qu'en fait elle peut charger un truc qu'elle voit pas et elle ignore les free strikes en chargeant. Ça veut dire que virtuellement, si tu es dans sa portée de charge, elle peut t'atteindre. C'est une figurine qui a silencer sur ses attaques qui sont pour 11 weapon master. Et ce silencer, ça fait que la figurine touchée ne peut plus lancer de sort. Donc c'est très rigolo de l'envoyer sur un caster ennemi. Même si tu le tues pas, tu vas lui faire des dégâts et tu vas l'empêcher de lancer ses sorts le tour d'après. En plus d'être une figurine qui est def 15, donc t'es pas non plus trivial à sortir. Donc voilà. Il joue ça avec deux Soulless Void Tracer, qui sont des figurines, des solos, qui sont stealth, et qui font que si tu lances un sort sur des figurines à côté, dans leur portée de commandement, ce qui est de 5, la figurine qui lance un sort perd un des 3 points de vie. Donc c'est vraiment les figurines qui sont là pour t'empêcher de lancer des sorts, parce que si tu lances des sorts, tu t'auto-tues. Et c'est assez rigolo de faire ça pour des figurines. Enfin, à l'assassinat, c'est encore plus facile du coup de tuer. Et du coup, les infiltrators, qui ont été buff en seed, alors hors seed, je trouvais qu'elles n'étaient pas très bien, mais maintenant elles deviennent vraiment très fortes. Elles ont gagné l'embouche, donc ça veut dire qu'on peut les sortir. Elles sont
finally. Pas vides.
Voilà. Enfin, les infiltrateurs qui peuvent enfin infiltrer, ce n'était pas le cas avant. donc ils peuvent sortir sur les côtés de la table. Et du coup, menacer à 13 ennemis sur les côtés de la table, ce qui force l'adversaire soit à pas s'en préoccuper, mais du coup, à se faire charger par des trucs qui sont gang, combo strike, donc il passe mat 9 po 14 en charge, donc ce qui est pas rigolo. Et sinon, ils sont obligés de jouer au centre. Alors moi, je trouve ça un peu moins bien de les sortir en embouche, en brawl machine, parce que de toute manière, tout le monde joue au centre. Mais en 75 points, c'est une unité qui est beaucoup plus forte. Et ils ont gagné la reposition 5, ce qui fait qu'ils sont d'autant plus mobiles et ils peuvent d'autant plus charger puis revenir en arrière. Ce qui est rigolo, c'est qu'en plus ils sont stealth, ils sont Pathfinder, Blessed, donc magique aussi, non peut-être pas magique, mais au moins Blessed. Donc c'est vraiment des saletés à sortir.
On va les voir plus souvent alors.
On les verra plus souvent, peut-être pas en Brawl Machine, mais même si en Brawl Machine, dans ce thème force-là, ils sont mieux que leurs équivalents qui tirent, enfin ils sont mieux. C'est une façon de voir la chose, mais on pourrait jouer à la place des Magenter Strike Force, qui sont l'équivalent des assassins, sauf que eux ils tirent et ils ont un dé de plus pour taper contre les jacks. Donc ils sont rigolos en brawl machine parce que ils ont un mini feat qui permet d'ignorer les lignes de vue et donc ils peuvent assassiner pas mal de très facilement ou sortir de l'infanterie qui serait cachée derrière de la forêt ou ce genre de choses. Là, les infiltrateurs, ça tape plus fort, mais ça tire pas. Donc, à voir. C'est une réflexion, les deux se valent. Donc, voilà, qui joue ça. C'est une liste qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, lors du tournoi Brawl Machine qui avait été fait, il a eu un score tout à fait honorable. Je crois qu'il a été en finale.
Bonne question. Non, c'était The Lazy Az avec Père.
Ah non, le dernier, celui d'avant.
Celui d'avant. Ah, ok. Bon, bah écoute, tant mieux. Mais ouais, c'est une liste qu'il faudra que je tente. Peut-être que tu vois, si je repartirai sur Syrah, ça serait peut-être ce genre de
Bah,
liste.
je trouve que la Theme Force Shadow, c'est la Theme Force qui est la plus drôle à jouer. Personnel. Enfin, l'une des plus rigolos parce que tu as toutes les règles. T'es protégé et t'ignores les terrains difficiles. T'ignores plein de choses en fait, ce qui fait que t'es très libre de jouer comme tu le sens. T'as pas des portées de menaces très folles, mais par contre, tu fais très mal et t'ignores beaucoup de problèmes et tu en poses surtout aux ennemis. Donc je conseille cette Theme Force pour s'amuser. Elle est devenue en plus vraiment très forte.
Ouais, c'est celle que je jouais, je confirme. Hein, j'ai vraiment, vraiment pris goût à la jouer, c'est vraiment intéressant.
Ah, c'est ce que je jouais aussi en MK2. Je m'amusais bien, mais je perdais.
Bah maintenant tu vas gagner. Maintenant tu gagnerais avec. Enfin, plus facilement. La haute défense,
Alors,
c'est pénible à jouer.
ouais,
Ah,
ça peut être très chiant quand même pour toucher. Alors, ensuite, on va parler très vite du troisième thème, Forge. Pour
ah
dire
bah
qu'il n'y a
du
pas de
coup.
liste.
Non, pas de liste. Ne jouez pas ça. Gagnez du temps. Il y a mieux, il y a largement mieux.
Et donc, on va passer directement au thème Defender of Yoth.
Ouais, alors ça c'est une liste en fait je me suis servi de la liste donnée par Line of Sight pour débuter en Brawl Machine et je l'ai un peu améliorée. Et en fait je trouve que c'est une liste qui est hyper rigolote à jouer. Par contre elle est très polarisée, c'est-à-dire que je pense qu'elle est très très bien contre War Machine. Elle est beaucoup moins bien contre Horde. Alors je vais détailler pourquoi. Kai'Sa, c'est un caster qui n'est pas du tout joué normalement, parce que c'est un caster qui est pareil, qui est très fort contre War Machine mais pas contre Horde. Et en tournoi ou en méta, on essaie d'avoir une liste qui est forte contre tout. Pourquoi? Alors, Kai'Sa, c'est un caster qui a True Sight et qui a 3 tirs, enfin un tir qu'elle peut reload 2 fois, qui est à range 12 et qui peut soit dispel à la touche, soit mettre stationary un jack à la touche, soit voler du focus ou de la furie à la touche. Donc, c'est vraiment le caster qui va être pénible parce que tu vas avancer, enlever les sorts, les buffs de l'adversaire et en plus mettre stationary tous les jacks que tu vas avoir en face. Surtout en Brawl Machine où généralement il y a 2 ou 3 jacks maximum, elle peut tout à fait mettre stationary tout le monde. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle peut faire ça et elle a un sort qui s'appelle refuge qui fait que quand tu touches, tu peux revenir en arrière, faire un mouvement. Donc en fait, elle avance, elle te met stationary puis elle recule à 17 pas. Donc techniquement, elle est protégée. Elle a un sort qui est très fort, qui s'appelle Phantom Hunter, qui permet d'ignorer les lignes de vue, concealment, le cover et je crois stealth. Donc en fait c'est beaucoup tout, et elle peut le mettre sur son battle group, donc elle peut se mettre sur elle-même, mais aussi elle peut le mettre sur ses jacks de tir. Ce qui fait que à une époque en MK2, elle était très jouée avec des Hydras, qui sont des jacks, d'ailleurs j'en joue un, qui gagnent du focus, pardon, plus ils ont de focus, plus ils ont de pot et de range sur leur tir. Ce qu'ils font, ce sont des jacks qui menacent à 19, non, pardon, à 20, ou 21, non, 21. Oui, c'est ça, qui menace à 21 avec un tir pot 15 qui potentiellement ignore tout. Donc ça fait des tirs qui font très peur, qui peuvent vraiment faire mal au caster, ou alors sniper n'importe quel solo. Et Kai'Sa, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un sort qui s'appelle Backlash, que tu peux mettre sur les jacks adverses, et ce qui fait que quand tu fais un dégât à un jack adverse avec n'importe quoi, le caster se prend un dégât. Ce qui fait que si tu avoines les jacks, tu avoines le caster en même temps. Et dans cette liste-là, c'est plein de petits trucs qui vont taper et qui vont grignoter. Et c'est une liste qui est très très forte et qui menace beaucoup à l'assassinat. Et en même temps, ça t'empêche de jouer parce que tu vas pas pouvoir t'avancer avec tes jacks facilement. La Manticore, elle peut poser des murs d'interdiction qui empêchent les unités d'avancer, et les jacks, ils se mettent stationnaires. Kai'Sa, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a. Je réfléchis. Ah oui, elle a Blur, un sort qui est très fort, qui met plus 3 de def contre les sorts et la magie sur une unité. Et
Et son feat alors?
son feat, c'est qu'elle met stealth tout le monde, et elle met tout le monde dans sa portée de contrôle inchargeable. Ce qui fait que tu as un tour où vraiment tu peux rien faire aux figurines adverses et toi en fait tu gagnes un tour de tir en plus. Donc c'est vraiment un caster qui est très 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 contrôle. C'est vraiment comme ceux qui jouent à Magic the Gathering, c'est vraiment le caster de deck bleu, tu vois. Et il y a plein de petits combos rigolos. Par exemple, je mets Eris 1 qui peut disrupt. Et donc ce qui est rigolo, c'est que si tu stationaries un jack et que tu le disruptes, eh bien le tour d'après il ne peut absolument rien faire parce que la disruption l'empêche d'avoir des. D'avoir
Pas de
du
power-up, c'est
focus,
ça?
pas de power-up, et il est stationnaire, ce qui fait qu'en fait, il est obligé de forfait son mouvement ou son attaque, ce qui fait qu'en général, il reste où il est, ou alors il avance de son mouvement, donc de 4 ou 5, peut-être 6. Donc c'est vraiment juste Kaelissa plus Ciri, ça empêche un Jack de jouer pendant toute la partie, sans le tuer, mais juste il fera rien. Ce qui permet de se concentrer sur autre chose, ou alors de le taper dessus si besoin. Je joue avec Scythe, j'en ai déjà parlé parce que c'est un solo qui est vraiment trop fort. Je joue avec un arcaniste pour buffer toujours les hydres, enfin l'hydre ou la manticore, parce que c'est quand même, ça monte pot 17 ou pot 19 au corps à corps, et que c'est toujours ça. Et je le joue avec une max de swordsmen. Alors attention, je la joue en seed, parce qu'avant ils sont injouables, mais en seed ils ont gagné une règle spéciale qui s'appelle gang, qui donne plus 2 de maths et plus 2 de force quand t'es dans la portée de corps à corps d'une autre figurine de ton unité. Donc virtuellement, ils ont plus 2 de maths et plus 2 de force. Donc ça fait des petits loulous qui passent mat 9, po 14, tout le temps, et qui ont 18 de défense contre le tir sous blur. Parce que de base, ils sont à 15. Mmh. Donc ce qui fait que cette unité-là, tu la tues pas au tir. Parce que 18, c'est trop. c'est 16 contre la magie, et sachant qu'ils ont un soulesse, donc faut quand même y arriver. Et en plus, 18 contre le tir, ce qui fait que généralement, même s'ils menacent pas très loin, tu ne les tues pas au tir, tu les tues pas à l'attrition. Et d'ailleurs, eux, s'ils te chargent, ils te violent. Non, pardon, faut pas dire ça, ils te font très mal. Donc, c'est une liste que je trouve très amusante à jouer. Par contre, elle n'est forte que contre War Machine. Donc, dans un pairing, si tu joues Horde, tu vas jamais pouvoir le sortir en étant serein, quoi. Disons que tu perds la moitié de tes règles, et c'est ça qui rend la liste forte.
Et dans le CID, j'ai vu que les Myrmidons, là, les Jacks, ils vont être plein de petits boosts, soit des bonus, un petit bonus de rat, de maths.
C'est ça, les Jacks Shail, ils ont gagné un point de rat, et ils ont gagné le bonus du coup de leur non, ils n'ont pas gagné de la rat, pardon. Les Jacks Shail ont gagné un de maths et un de défense. Ils passent mat 7, def 13. Et du coup, leurs boucliers peuvent se régénérer plus facilement. Et les Jacks Vir, ils ont gagné un point de rat. Ça veut dire qu'ils sont 6-6. On a des Jacks qui sont 5-3. 7-5, 7 de mat, 5 de rat. Ou 6-6. Donc 6 partout.
Okay.
Donc voilà. Et par contre, on a les Jacks lourds qui sont 12-19. Alors que les Jacks Shail, ils vont être 13-18. Mais avec un bouclier.
Hmm.
Voilà.
Y avait une autre liste en 25 points Defender avec Garrett encore.
Fait.
Décidément, on le voit partout.
C'est ça, mais vu qu'il est tellement fort, on le joue partout. Alors ça, c'est une liste que j'ai pas testée. J'y ai réfléchi. Elle est sûrement moins bien que la liste Defender of Fios, Legion of Dawn. Par contre, c'est une liste qu'on peut améliorer pour devenir une liste à 75 sans problème. Donc c'est Garrett, on ne le présente plus, avec Silis Vishnalir qui va être le petit solo qui lui permet d'upkeep un spell gratos et d'avoir Arcane Secret qui lui permet d'avoir un défantôme sur un sort qu'il lancerait. Et en plus, plus 2 de range à ce sort. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de caler Mortality sans avoir besoin de tirer sur la figurine et d'utiliser le Witch Mark. Donc ça lui donne beaucoup plus de flexibilité à Garrett. Je le joue avec un Sphinx. Pourquoi ? Parce que le Sphinx, c'est un Jack qui tape très fort pour son coup. Et qui a un gun qui est rigolo, qui fait que quand tu tires sur quelque chose à la touche, la figurine qui est touchée, tu as plus 2 ou plus 3, je sais plus, range pour les spells. Ce qui fait qu'avec Silis plus le Sphinx, tu peux caler Mortality à 15 pas. Donc, ou tout simplement rester où t'es, oui c'est ça, 15 pas, sans bouger, grosso modo. Garrett n'est pas un caster qui a envie de bouger, c'est un caster qui veut forfait son mouvement pour déclencher ses effets, donc c'est très bien.
C'est pour ça que tu n'as pas mis Dark Node alors.
C'est pour ça que je n'ai pas mis Dark Node. C'est pour ça que je ne mets jamais Dark Node avec Garrett. C'est que soit je vais tirer sur un Jack et me servir de la Witch Mark, parce que je sais que je ne le tuerai pas. Soit je vais tirer sur des unités qui sont trop résistantes pour mourir en un coup. Soit je ne vais pas tirer, je ne vais pas mettre Mortality dessus. Mais j'aurai des sentinelles, etc. Et là, du coup, ça me permet de mettre Mortality sur ce que je veux. Mais pas besoin de mettre Dark Node, et du coup, ça fait que je gagne des points en fait au final. Je le joue avec Moros parce que c'est le Jack character de Garrett, c'est celui qui apparaît acrobatique, c'est celui qui paralyse, et c'est celui qu'il faut jouer si on veut menacer l'assassinat. Et je le joue avec une harpie parce que le harpie c'est notre meilleur Jack léger. Pour 9 points, c'est un Jack qui vole, qui a 2 tirs Thunderbolt pour range 13, je crois que c'est 12. Donc il menace à 17 et ses tirs Thunderbolt, c'est des tirs qui poussent de 1 des 3 et qui crit sur le cadet. Donc il cadet sur le crit plutôt. C'est des tirs qui font pas forcément rigoler, qui poussent au scénario. Et c'est un Jack qui peut faire des trucs au corps à corps contre des trucs pas trop armurés.
Ouais, c'est un super léger. L'harpie,
ouais. Mais elle est vraiment très rigolote à jouer. Notamment sur une cible sous mortality, ça peut faire des dégâts. Et toujours un arcaniste. Et je joue. Descends, s'il te plaît. Je le joue avec quoi, ce truc? Ah oui. Alors, je le joue avec toujours Scythe, parce que pourquoi ne pas la jouer? Et là, je joue avec les nouveaux Rise of Us Defenders. Donc en seed, encore une fois, je sais que je joue beaucoup de trucs seed, mais avant on était beaucoup moins fort et beaucoup moins polyvalent. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné tough no... ils ont toujours tough no KD, ils ont defensive line, ils peuvent être stealth avec Garrus, ce qui fait que c'est difficile de les tomber. Avec Aelith, ils gagnent vétéran leader, ce qui fait qu'ils tapent fort, ils tapent mat 8. C'est du podis weapon master qui precision strike. Et c'est des trucs qui sont, je rappelle, tough no KD, donc pas si facile que ça à sortir. Et Aelith leur donne une règle qui est rigolote, c'est quand ils meurent, ils peuvent taper la figurine qui les a tués. Donc ça fait que même si tu viens les engager au corps à corps et que tu as réussi à les tuer sans tough no KD, et ben derrière, ils peuvent quand même te défoncer ton infanterie. Donc c'est une unité qui est là pour être difficile à enlever, pour taper correctement fort, et pour jammer. Voilà. Et toujours avec le soulesse pour les protéger contre les sorts.
Alors quand même, si on regarde un peu ces listes, en gros, si tu conseilles à un débutant, c'est de partir sur un peu du quoi comme thème. Defender et Legion.
Ouais, clairement. En fait, ça dépend. Pour un débutant, je conseille de partir sur du Legion of Dawn parce que tu as moins de figurines à acheter, elles ont pas des milliards de règles et qu'elles sont fortes dans ce qu'elles font.
D'accord.
Ce qui fait que ouais, elles sont très bien en elles-mêmes et il n'y a pas besoin de réfléchir à 15 000 combos comme ça pourrait être le cas en Defenders ou en Shadows. Ouais. Et puis comme je l'ai dit, c'est des figurines qui coûtent pas cher, c'est facilement trouvable d'occasion. C'est pas des figurines qui sont en CID en plus, donc les règles sont les règles, il n'y a pas à se poser la question. Et partir sur Garrett, quoi qu'il arrive, c'est vraiment notre meilleur caster et il faut le jouer absolument. On peut toujours faire du Shadows si on a envie de s'amuser en Brawl Machine, c'est faisable, sachant qu'on va pouvoir transformer cette liste Shadows en une liste 75 points, tout comme on peut transformer la liste Defender of Fios en 75 points, Dawn Guard en 75 points. On changera juste le caster, on jouera plus Garrett, on jouera Issyria ou Gorshade, mais Gorshade il est tout à fait jouable en Legion of Dawn en 75 points, où on va mettre deux unités complètes de sentinelles avec un trident et Imperatus et un Arcnode, et ça fonctionne très très bien. C'est une saturation de haute armure et de haute défense avec énormément de tirs, énormément de pot 12 weapon master, énormément de récursion. Ça pose énormément de problèmes, c'est très fort, je l'ai joué en tournoi, ça fonctionne très bien. C'est dans la méta peut-être un peu moins bien parce que c'est quand même de l'unité de l'infanterie monopève, et avec les archons qui sont sortis, avec toutes les listes qui sont sorties qui gèrent ça, c'est moins bien. Mais ça peut faire le taf contre des listes qui ne sont pas adaptées. En thème Shadows, on peut tout à fait garder la même liste et l'améliorer pour qu'elle soit en 75 points, ou alors on peut changer et prendre le nouveau caster qui a changé sous le site, c'est-à-dire Tyron, qui devient une brute épaisse avec son feat qui donne soif de sang plus... Killing Spree plus le dé additionnel à la touche, qui avec les assassins devient débile. En gros, le petit combo rigolo, c'est que sous feat, t'as un assassin qui va avec sous Storm Ranger, qui passe mat 9 pour 11 Weapon Master, qui menace à 14 avec son attaque, qui est, je rappelle, une attaque qui ignore plus ou moins tout, parce que ça ignore les boucliers, ça ignore les buffs de sort, parce que c'est blessed. C'est boosté à la touche, avec une loupe jamais. Et tous les dégâts sont doublés. Et en fait, t'envoies ça sur des unités, et à chaque fois que tu tues un truc, sachant qu'en plus t'as takedown, donc tu ignores le tough et le soin, tu avances de un pas et tu réattaques. Ce qui fait que moi, j'ai déjà joué contre ça, contre une liste de Vlad 2 Doomies, et j'ai tué 40 Doomies avec une figurine. Pour le pendant. Ouais, ouais. Bah oui, en fait, parce que en fait, c'est tout sauf triple 1, tu touches et tu auto-kill, puisque c'est du pot 11 Open Master, donc sauf triple 1 encore, tu auto-kill. Et puis à chaque fois, tu avances d'un pas, et je te rappelle que tu as une portée de 4 de ton arme, en fait. Ça veut dire qu'en fait, tu menaces à 5 à chaque attaque. Donc en fait, tu remontes ces lignes complètement, tu Pac-Man bien mieux que n'importe quoi. Et contre de l'infanterie, c'est violentissime, surtout de l'infanterie qui n'est pas très, qui n'a pas une haute armure. C'est violentissime de fou. Surtout si tu t'abuses à mettre le treasure chest, c'est-à-dire tu sais la relance à la touche ou aux dégâts au cas où tu ferais ce triple 1 là, ce qui peut arriver. Et ce qui fait que tu as un solo tout seul qui peut tuer l'équivalent de 50 ou 60 points d'armée sans aucun problème. Et ça tue. J'ai testé en charge un assassin, ça tue les solos manowar, là, les suppressions tankers là, qui ont 21 d'armure. Et ben en fait, déjà, ils passent à 17. Et puis, ça les one-shot, en fait, à 85% de chance de les one-shot.
Ah oui, c'est vrai que t'as la chaîne, oui, c'est vrai.
Ouais. Eh oui, donc t'ignores les boucliers, t'ignores les shield-walls. T'ignores les sorts, en fait. Donc ça fait que c'est les stats de base sur les infanteries qui, en général, sont pas ouf. Donc, ouais, c'est très très fort. Et pour l'avoir joué, c'est très fort. C'est violent.
Par rapport au CID, entre le document que tu m'as gentiment fourni et celui qu'il y aura dans 15 jours, il y a des risques qu'il y ait des changements ou ça va sortir comme ça? C'est très rare, les changements.
Il y aura peut-être des changements, mais étant donné, je n'y crois pas trop. Le CID a été riche en retournements sur certains cas, mais il y a eu des consensus qui ont été vus. Tyrion, par exemple, a cette règle-là qui est très forte. Hein, elle a déjà été nerfée une fois pendant le CID. Avant, c'était sur toute la table. Maintenant, c'est juste dans sa zone de contrôle. Ce qui reste très fort, mais voilà. Du coup, peut-être que le feed de Tyrion va encore être nerfé. Je pense pas, mais peut-être. Hormis ça, je pense que tous les changements qui ont été apportés vont rester. La seule chose qui changera peut-être, ça va être quelques règles sur les nouvelles figurines qui sont pas encore sorties, dont j'ai pas parlé là parce que ça s'y prêtait pas. Et peut-être le nouveau caster, le nouveau caster qui était fumé à sa sortie, qui a passé par différents stades de transformation et qui va peut-être sortir nul ou sortir très bien, on verra. Donc là, c'est l'interrogation de tous les joueurs Syra. Est-ce qu'on va avoir un truc fumé ou est-ce qu'on va avoir une grosse daube? On se pose la question.
Et globalement, tu le sortirais pas alors?
Je pense que c'est sortable. Je pense que c'est tout à fait sortable parce que ce que tu peux faire en 75 points, tu peux le faire en 25 points avec les assassins, sauf que tu n'as qu'un assassin. Alors qu'avant, tu pouvais le faire deux fois avec les deux assassins. Donc c'est sortable tout à fait. Je pense que c'est bien parce que Tyrion, il a une liste de sorts qui est rigolote. Hein. Il a Fury, ce qui donne plus 3 de dégâts et contre moins 1 de def. Ce qui fait que t'as tes infiltrateurs ils passent pot 17 en charge ou deux fois pot 14. Si tu le mets avec des sentinelles, ça devient des pot 15 weapon master, c'est débile. Oui. Imagine avec le fit, ça devient encore plus con. Donc non, je pense que Tyrion a tout à fait sa place en Brawl Machine et je ne l'ai pas encore sorti parce que j'attends la sortie officielle pour faire des listes. Mais je pense que ça peut faire des trucs horribles en Shadows, tout comme ça peut faire des trucs horribles en Légion, tout comme ça peut faire des trucs horribles en Defenders. Donc c'est un caster qui est devenu vraiment très bien, et en plus c'est un caster originel de Syra, donc il doit coûter vraiment pas grand chose d'occasion. Donc je pense qu'on peut vraiment s'amuser à la fin de février avec ce caster.
À suivre. Voilà.
Alors, tu nous disais tout à l'heure quand même, pour passer à 75 points, c'est pas forcément évident.
Je pense les top listes Brawl Machine sont pas forcément évidentes à sortir à 75 points à l'identique, mais évidemment que si on change les casters, on change 2-3 trucs, c'est tout à fait sortable. J'ai déjà parlé de Légion, par exemple en Defenders of Yos, Garry 2, y a la top liste Syra, c'est une liste Garry 2 double, enfin triple BE, deux tridents et un arcantrique, avec des harpies et avec des électromanciers. Et ça, c'est une liste qui gagne des tournois. Hein. Parce que les tridents. je pourrais en parler des heures, tellement c'est bien. C'est que des listes qui sont très fortes et tout le monde réclame qu'ils soient fast nerfés depuis longtemps, mais ça arrivera pas, je pense. Donc vraiment, Garry 2 en Defenders avec des tridents, c'est bien. Par contre, pour un débutant, ça fait acheter 3 BE.
C'est ce que j'allais dire. C'est peut-être bien, mais pour le portefeuille, ça fait.
Ah bah oui, voilà. Sinon, actuellement, Tyrion, quand il sortira, s'il sort tel quel en Shadows, avec DMHSF, les Magenta Strike Force, avec des infiltrateurs, moi je les joue avec double Archon, et double Assassin, Narn, et qu'est-ce que je joue? Un Ermite, voilà, avec le nouveau Jack, qui est Po 8 Armor Piercing. Et je le joue avec lui parce qu'il a le nouveau Jack, il a Accumulator et le Weir, qui sont les infanteries dorées là, que l'on voit, les Swordsmen en fait. Et Tyrion et le Weir, donc du coup je joue le Jack juste à côté de Tyrion, et il gagne toujours deux de focus. Enfin, du coup il a deux de focus lors de son power-up, ce qui fait que Tyrion n'a pas besoin de lui mettre du focus, et c'est toujours très rigolo. Et le Po 8, le Po 8 Armor Piercing, pas des Jacks, mais ça fait des trous dans les Jacks, ou ça tue des solos. Donc, ou des archons. J'ai déjà one shot un void archon comme ça, des solos qu'adore lors d'un feat, ce genre de choses. Et ça, c'est une liste qui sort et qui est très bien et qui est très fun à jouer. Sinon, tu peux jouer en 75 points. Tu peux jouer Viros, si tu as envie de jouer Forge, Viros 2 avec plein de griffons et de lourdes et Discordia par exemple. Ça peut être amusant à jouer. C'est pas super fort dans la méta. Ouais, ça... Et encore, moi j'en joue pas tant que ça, j'en joue 5, je crois.
1, 2, 3, 4, 5, oui, non, 5.
5. Ouais, tu vois, mais ça peut se jouer à 8 griffons. Hein. C'est une liste qui est forte, ça utilise la synergie à fond. Ça fait des jacks qui passent mat 11, po 16, voire po 8 quand c'est pour des légers. Même mat 13 en charge. Ou po 22 pour Imperatus ou Discordia, ce genre de choses. Donc ça fait des trucs, c'est rigolo à jouer, par contre c'est dur à jouer, ça nécessite un peu de maîtrise du jeu pour le jouer correctement, et dans la méta c'est pas forcément top, mais ça fait des trucs, et c'est loin d'être nul. Sinon 75 points, tu peux faire plein de trucs en Defender of Yos, hein. Là je te sors les top listes, mais tu peux sortir du Elara 2, qui est très bien avec des albardiers, et éventuellement des tridents, tu peux sortir... Qu'est-ce que tu peux sortir d'autre? Issyria en Légion, c'est très bien. Tu peux sortir Issyria avec en Shadows, c'est très bien aussi. Tu peux sortir Issyria en Defender, c'est un peu moins bien.
Ce qui a l'air intéressant quand même, c'est que si on fait attention au nom des casteurs que tu cites, il y a plein de casteurs différents. Ça veut dire que quelqu'un qui va débuter la faction, il va avoir un choix énorme.
Oui.
Au niveau du brainstorming,
Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. En fait, chez Syrah, on a beaucoup de casters qui sont bien. On a peu de casters qui sont excellents. On a Garit, top 3, ça serait Garit, Issyria et maintenant Tyrion. Mais à part cela, on a beaucoup de casters bien et du coup, ça fait qu'on peut vraiment faire des choses. Le problème, c'est que souvent, ces casters bien ne sont pas suffisants pour le contrer les top listes adverses en tournoi ou en méta. Si on sort des listes, enfin contre des adversaires qui sont violents, ça suffira pas. Mais par contre, en format, on va dire, plus casu ou amical, la plupart des casteurs sont sortables et jouables, et on peut vraiment faire des trucs drôles. Si on invite s'amuser avec des colosses, on peut sortir Issyria, on peut sortir Ravine, qui fait tirer deux fois Hyperion, Issyria aussi, c'est rigolo. Si on a envie de s'amuser avec des trucs qui tirent, on peut sortir Ossian, qui va booster les dégâts des tirs. En fait, il y a très peu de casters tout pourris. Je recommande juste de ne pas jouer Garit. Si Garit 1 avec le Cid est devenu un peu bien. Le Vidros 1 est pas top. Ossian est moyen. Elina, hormis pour s'entraîner, ne la jouez pas. Et sinon, tout le reste est tout à fait sortable, en fait. Hein. Donc oui, c'est une faction quand même, au fur et à mesure des seeds, qui s'est bonifiée et qui devient maintenant... on peut vraiment sortir plein de trucs différents et s'amuser avec, sans problème. En tournoi, moins, mais en amical, complètement.
Alors, voilà. Finette, est-ce que tu as d'autres questions?
Non, j'avais noté des choses, mais voilà, ça va tomber un peu hors contexte, donc c'est pas la peine de les passer. Non, il a bien, il a été assez complet. J'ai pris plein de notes par contre pour la suite.
Ah bah écoute, toujours, n'hésitez pas. Hein, de toute façon, d'ailleurs, j'en parle à ceux qui nous écoutent. Si vous voulez des conseils, je suis sur le forum ou sur le Discord. Et d'ailleurs, on est plein de joueurs Syrah sur ce forum et sur ce Discord. Et n'hésitez pas à venir, on est gentils. Et c'est une faction qu'il faut jouer.
Allez, vas-y.
Ouais. Non, j'allais juste dire, c'est une faction cool et faut venir jouer Syrah.
Ouais, ah, mais une fois qu'on aura fait le tour des débutés sur les factions, on fera peut-être des trucs un peu plus hardcore gaming ou enfin voilà, on essaiera de faire d'autres un autre niveau en espérant que je puisse faire toutes les autres factions.
Surtout que le temps s'y prête, hein, parce que avec le confinement, on peut jouer sur Wartable, ça coûte rien, tout le monde peut tester plein de choses. Et puis après,
bah, c'est le problème, hein, c'est le problème. Moi, c'est Wartable et le fait que bah, tu peux pas jouer à grand chose qui m'a fait retoucher à Warma. Hein, donc, Et puis en plus, le petit truc, c'est sympa, mais tu vois, les listes Brawl Machine, bah, ça te permet de te dire tiens, je prends ça, ça, ça. Au pire, tu te fais quelques achats pour peindre, ainsi de suite.
Ouais, c'est
non,
ça.
Mais c'est cool. Bon, alors pour finir, quand même, quels sont tes deux conseils, on va dire, pour ceux qui veulent commencer Syrah? Et pour ceux qui vont en affronter.
Ok, alors pour ceux qui vont commencer, je dirais accrochez-vous, entraînez-vous. C'est vraiment une faction dure à prendre en main et qui peut être frustrante à ses débuts parce qu'on a l'impression que rien n'est fort et que rien ne fonctionne. Et que c'est aussi une faction qui est très 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 dépendante de la chance, je trouve. Et si vous êtes des gens avec pas beaucoup de chance ou ce genre de choses, ça peut vous faire rager parce que les jets de dés sont importants et c'est plus difficile de fiabiliser les jets de dés avec cette faction-là qu'avec d'autres, parfois. Y a beaucoup de jets de dés. Mais entraînez-vous, améliorez-vous, travaillez vos placements. Notamment, les placements, c'est probablement le plus important en Syrah. Et vous allez voir qu'il va y avoir une vraie progression et que ça va devenir vraiment fort et de plus en plus fort. Et ça va vraiment poser des problèmes avec les adversaires. Pour ceux qui les affrontent, non, c'était quoi la deuxième? C'était ça, ceux qui
oui,
les
c'est
affrontent.
Ça, pour ceux qui les affrontent, qui risquent.
Pour affronter Syrah, ça va dépendre du niveau. Bah, en fait, ça dépend clairement de la liste et du niveau du joueur. Mais si j'ai un conseil, connaissez les références Syrah, parce que c'est des listes qui sont très 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 polyvalentes et qui sont capables de faire énormément de choses et qui ont beaucoup beaucoup de combos et de tricks qui sont difficiles à prévoir. Et jouer des trucs qui sont méga armurés et espérer que ça passe. Ça passera pas forcément toujours.
Mais non, ça passe pas.
Voilà. Mais c'est ça. Je vais vous dire la même chose. Travaillez vos placements. Y a pas mal de placements qui vont gêner les joueurs Syrah. Ils vous le diront pas. Mais travaillez vos placements, bloquez les lignes de vue. Faites en sorte de vous rajouter le plus de bonus de def, même si vous avez que 10 d'armure. De défense, pardon, mettez-vous derrière un mur, mettez-vous, cachez-vous, bloquez les lignes de vue. Soyez certain, pour chaque figurine que vous allez affronter, connaissez ses règles et sachez comment les affronter. Par exemple, on est capable de faire plein de choses, mais il n'y a aucune figurine qui fait tout. C'est-à-dire que, par exemple, on a une figurine qui va ignorer les forêts, mais elle ne va pas ignorer les clouds, ou elle ne va pas ignorer le stealth, par exemple. Et du coup, mettez les figurines avec le stealth en face. Ce genre de choses, en fait. C'est qu'on va être capable de tout gérer, mais pas partout, tout le temps. Et du coup, le plus important, ça va être lors du déploiement. Déployez-vous correctement, bien en face les choses l'une des autres. Ne sous-estimez pas la puissance que peut avoir une alpha de Syrah. Et donnez le minimum, parce que nous, on prendra tout. Et même plus. Voilà.
Ouais, donc, pas de bait.
C'est ça. C'est difficile de bait un Syrah, parce qu'en général, on le voit venir et on te tire dessus. Et du coup, bah, t'as baité pour rien.
Ouais. Et puis, au pire, tu envoies un truc à manger et bon, bah, c'était son taf, quoi.
Voilà, c'est exactement ça. Après, c'est très dépendant des listes, puisqu'on a des listes qui sont très différentes. Vous pouvez tomber sur des listes vraiment violentes que vous ne connaissez pas et il va y avoir une courbe d'apprentissage. Où vous allez apprendre à affronter cette figurine. Par exemple, n'importe qui affronte Garrett 2 pour la première fois se prend une branlée mémorable, et puis la deuxième fois pareil, puis la troisième fois pareil, et puis au bout d'un moment, il finit par comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et à trouver des stratégies. Et ça, c'est un peu le cas pour Syrah. Y a des stratégies, il y a des choses qui sont très fortes contre tous les casters, même les plus forts. Il faut les trouver et il faut s'entraîner. Et par contre, si vous jouez contre un joueur qui est pas très fort ou qui est de votre niveau, débutant, etc., c'est pas forcément une armée qui devrait vous inquiéter plus que ça, puisqu'elle est très dure à prendre en main. L'adversaire qui va jouer Syrah va faire des erreurs, Et s'il fait des erreurs, il a perdu en général plus que vous.
C'est et vraiment donc, si une armée... vous perdez, posez-vous des questions sur votre niveau.
Ben, ça veut dire que vous avez fait encore plus d'erreurs que votre joueur Syra et des erreurs plus graves. C'est ça. Bon.
Eh ben, tu tiens, merci pour ces petites oreilles pointues. Hein. Moi, ça me donne envie de. Ah, je vais voir. Bon, déjà, je peins mon cadre déjà et on verra ensuite.
Bon, c'est vite fait, cadre un peu de rouge.
Ah non, je peux pas.
Bon, Syra, ça se prend vite aussi. Hein. Un coup de bombe blanche et puis c'est bon.
Mais alors, tu vois, franchement, bon, alors moi, je fais pas les schémas officiels, mais c'est aussi l'un des trucs qui m'a un peu bloqué quand je faisais du Syra. C'est que je trouvais que les jacks étaient chiants à peindre, enfin, durs. Et des fois, il y avait des figues. Putain, fallait s'y accrocher. Moi, je me souviens des Magenta Strike Force, où quand je les transportais, ils perdaient tout le temps leur arbalète, les infiltrateurs aussi.
Les petits couteaux, ouais. Ça, c'est sûr que si vous aimez pas vous coller les doigts, Syrah, c'est pas pour vous. Hein. Mais.
Maintenant, il y a l'accélérateur, il y a une petite pince à épiler, hop là. Enfin, je fais ça maintenant pour du Infinity. Et je pense que si je me remets dans du Syrah, ça sera ça. Mais.
Moi, j'ai une technique, c'est que je sous-couche en blanc. Et c'est ma base en fait. Et ce que je fais, c'est que j'utilise juste du contraste pour faire les ombrages, contraste blanc pour faire les ombrages. Ouais. Et ça suffit. Et en vrai, ça, si vous voulez faire du tabletop plus, ça suffit largement.
Et après, ouais, mais bon, voilà.
Pour ceux qui veulent faire du hobby à plus haut niveau, c'est plus dur parce qu'en effet, c'est tout en arrondi. Et l'arrondi, c'est pas évident à peindre en général.
Non, et même à l'aéro, ça donne pas grand chose. Parce que moi, j'avais justement commencé l'aéro pour Syra. Et putain, c'est et quand même, les volumes étaient.
Ouais, bah, j'ai fait de l'aéro.
T'as des petits creux, t'as des gros creux. Et c'est pas évident.
Je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. Ça demande de la maîtrise pour bien le peindre.
Enfin, voilà. Et eh ben écoutez, je vous remercie beaucoup, Ashnet, Never. Merci beaucoup. J'espère que qu'Ashnet t'as appris beaucoup de choses.
Ah oui, moi j'ai pris plein de notes, comme je le disais. Mais ah, c'est vrai que
façon,
c'est
vrai pas que d'écouter les podcasts.
C'est une faction qui attire. Ah, j'ai écouté les deux précédents. Ouais.
Les listes dont on a parlé sont disponibles sur mon blog, donc j'ai encore oublié l'adresse, mais le lien sera en description de l'épisode. Et bah, je vous remercie beaucoup tous, merci donc déjà à nos intervenants et à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était Billy the Kid, fin de l'épisode, à vous les studios.